Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles sur le 92.1. Il fait beau, le soleil est là, l'été est enfin arrivé, on l'attendait. Et aujourd'hui, eh bien, si vous êtes avec nous, c'est pour entendre parler de jeux vidéo. C'est le rendez-vous mensuel dans le rétro. Désolé, on n'était pas le mois passé, donc c'est pas vraiment mensuel, mais bon, désolé, restructuration, tout ça, on va parler de termes managériales, tu vois. Mais voilà, c'est la période des examens, donc force à ceux qui sont en train d'étudier pendant qu'ils nous écoutent. Profitez de cette petite heure pour peut-être penser à autre chose, faire à manger en écoutant une chouette émission. En tout cas, nous, on est là pour vous pendant une heure jusqu'au moment où on n'aura plus rien à dire. Et puis, je ne suis pas tout seul aujourd'hui, je suis avec deux personnes. Je suis avec Dovadine.
Bonsoir.
Tu vas bien ?
Ça va et toi ?
Eh oui, ça va, pour la deuxième fois.
Oui.
Mais dis donc, est-ce que ce serait une récurrence qui apparaît ?
Ah, peut-être. Qu'est-ce qui se passe ?
Mais que se passe-t-il ? Ben, on a parlé de restructuration, oh my god, peut-être qu'il y a quelque chose dans l'air. Mais Dova, du coup, tu me rejoins en tant que membre officiel de l'émission, il paraît ?
Ouais.
T'es toujours d'accord ?
Oui.
Ok, ouais !
Là, je me demande qu'est-ce qui se passe si je dis non maintenant.
Ben, on coupe le micro et c'est fini.
Ah.
Enfin non, je parle avec Naïm pendant une heure et toi, tu t'en vas. Voilà, mais merci en tout cas, merci de me rejoindre, merci de partager tes connaissances, ta bonne humeur et voilà, tout ce que tu aimes dans ce magnifique média qu'est le jeu vidéo, avec moi, avec les auditeuristes, avec Radio Campus, merci beaucoup. Et je nous souhaite plein de chouettes émissions. Et celle-ci, elle est avec Naïm aussi. Comment tu vas, Naïm ?
Hello, ça va très bien, ça va très bien, il fait beau, ça fait plaisir.
Mais oui, on a le sourire, on a la peau qui commence tout doucement à prendre quelques couleurs, tout va bien, ça fait du bien. Est-ce que tu avais déjà entendu, toi tu m'as dit que tu étais venu à Radio Campus il y a 15 ans, est-ce qu'entre-temps tu as pu consommer un peu Radio Campus ou...
Je t'avoue que pas vraiment, j'écoute pas beaucoup la radio,
je ne t'en veux pas du tout.
Consommateur de podcasts par contre.
Ah mais ça tombe donc, bien voilà. Parce que nous sommes disponibles en rediffusion.
Sur... Bah, écoute voilà, du coup je vais m'y mettre.
Non mais je ne te mets pas du tout le couteau sous la gorge. Mais...
Non, juste le flingue sur la tempe.
mais bienvenue en tout cas Naïm,
merci.
Bienvenue dans les locaux de Radio Campus, bienvenue dans l'émission Dans le Rétro. Je pense que notre point commun c'est de connaître un petit peu un magasin qui s'appelle New Game Plus.
Exactement.
Et je me demandais, toi, du coup, de manière générale, quelle est ton accroche avec le jeu vidéo ? Est-ce que tu as grandi avec ? Est-ce que tu travailles dans le jeu vidéo ?
Alors, j'ai grandi avec. Je ne peux pas plus grandir avec que ce que j'ai grandi avec. C'est-à-dire que j'ai un petit peu plus de 40 ans.
Mm-hmm.
Et donc, je suis né avec la naissance de la popularisation du jeu vidéo. J'ai grandi avec la Atari 2600, avec la NES, avec la Super NES, avec la Nintendo 64, avec la Mega Drive, avec tout ce que tu veux comme console. J'ai joué à tout et j'adore le jeu vidéo pour ce que ça raconte, pour ce que ça transmet, pour la façon dont on peut partager des chouettes émotions à travers le jeu vidéo. Donc je pourrais t'en parler pendant des heures.
Ah, mais alors on n'a qu'une heure aujourd'hui. mais trop cool. Peut-être que tu viendras une deuxième fois. Qui sait, peut-être que tu vivras une expérience révélatrice. Tu te diras, mais mon Dieu, en fait, je suis fait pour faire de la radio sur les jeux vidéo. Mais en tout cas, merci beaucoup de venir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et merci beaucoup à New Game Plus quand même qui a servi d'entremetteur et de réalisateur de possibilités dans ce qui se passe aujourd'hui. Dova, peut-être tu peux peut-être expliquer un petit peu ce que tu fais quand même ou tu gardes secret pour toi ?
Moi je suis monteuse vidéo et je suis streameuse aussi de jeux vidéo évidemment, donc un peu... Pareil, hein, moi je suis dedans depuis que je suis toute petite et du coup j'ai jamais vraiment arrêté de jouer. C'est toujours un plaisir de découvrir et redécouvrir des jeux tout le temps et du coup je fais ça en stream et voilà, et c'est trop bien.
Mm-hmm. Et donc ici tu t'as fait une petite parenthèse dans un challenge que tu t'es lancé.
Petite parenthèse de 38 jeux.
Qui sont sur la licence Mario,
ouais.
C'est ça.
En fait le projet c'était de faire tous les jeux... principaux de Super Mario Bros sur console d'origine, donc il a fallu rassembler tout ça et puis rendre streamable tout ça et bah là c'est en cours du coup là je vais entamer mon 10e jeu là.
Ok, qui est
Super Mario World 2.
Super Mario World 2.
Et t'as fait aussi le Super Mario Bros 2 version
le vrai
Japs, le vrai.
Attention, tu viens de gagner le respect de Naïm, yeah.
Elle en a gagné encore plus.
Trop bien, trop bien. Mais voilà, mais du coup, si vous voulez aller voir aussi, faire partie de cette expérience qui est ce rush, on va dire, Mario, ben, vous pouvez aller te retrouver sur Twitch, il me semble.
Oui.
C'est ça, Dovahdine comme Dova, D-O-V-A.
D-O-V-A-H-D-2-I-N.
Yes. Ok. Mais aujourd'hui, on va pas parler de Mario. Si je vous ai convoqué autour de cette table, c'est pour parler d'un jeu que tu dis être niche, Naïm.
Bah, c'est pas Mario, quoi.
C'est pas Mario. C'est pas sûr. Mario. Et c'est vrai que je pense qu'il y aurait même pas. Il y aurait peut-être aucun point commun à trouver avec Mario.
C'est un jeu vidéo.
C'est un jeu vidéo, mais à part là, à part ça, c'est très 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 loin. On va parler de Hellblade. Le sous-titre, c'est Senua's Sacrifice, donc le sacrifice de Senua. C'est un jeu que Dova et moi, on avait tous les deux dans notre liste en mode ouais, si on devait parler de 10 jeux, de quoi on parlerait ? On s'est dit ouais, Hellblade. C'est vrai que c'est un jeu qui a marqué nous, en tout cas, notre expérience de joueurs, de joueuses. Peut-être pour resituer, du coup, il est sorti en 2017. Oh my god,
ouais,
il est sorti il y a presque 10 ans. Ça fait une claque quand même, parce que là, d'y avoir rejoué, il est quand même encore... Enfin, je sais pas.
Techniquement, il est propre.
Ouais.
Moi, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps. Je l'ai fait il y a genre un an ou deux max, sur PS5. Et même comme ça, bah, nickel, quoi.
Ben ouais, et on va en parler. Et l'esthétique de ce jeu, c'est une des caractéristiques importantes quand même. Donc il est sorti en 2017. Le studio, c'est Ninja Theory. Est-ce qu'ils ont autre chose que ils ont d'autres jeux. Je vois Kung Fu Chaos, Heavenly Sword.
C'est un studio de techniciens, quoi.
Ah ouais, d'accord.
Il faut voir aussi, parce que c'est un studio qui édite des jeux. Du coup, tous les jeux ne sont pas forcément les leurs.
Effectivement, oui, c'est ça. Ouais. En tant que Ninja Theory, ils en ont quand même quelques-uns. Attends, je vois Devil May Cry.
Ouais, ils ont bossé sur le reboot, ouais.
Sur le DMC, et ils ont fait Enslaved.
Ouais, Odyssey of the West, to the West.
Voilà, en soi, c'est un jeu un peu anecdotique, mais moi, il m'a intéressé dans le sens où c'est une réinterprétation du voyage vers l'Occident. Mm-hmm. Donc, un des fondements des contes chinois, mm-hmm. qui racontent l'histoire de... Enfin, en gros, le début de Dragon Ball, mais la version antique.
D'accord, voilà. Ok. Donc c'est quand même c'était pas leur premier jeu. Mais par contre, c'est quand même un jeu qui a servi à ce moment-là de référence. Notamment, on va en parler, mais pour les prouesses techniques. Aussi par rapport au thème que le jeu aborde, on va parler de tout ça, pour la qualité du son, pour la qualité. Voilà, c'est un jeu qui a quand même beaucoup, beaucoup de qualité. Même si, ce qui est marrant, je trouve qu'une de ses moins bonnes qualités, c'est d'être un jeu. Mais ça, on en parlera. Moi, avant de me lancer vraiment dans le décortiquage de ce gros morceau qui nous attend, j'avais envie de savoir quelle est votre histoire avec le jeu. Comment vous l'avez découvert? À quelle période, peut-être, vous l'avez découvert? Est-ce qu'il a fait sens à ce moment-là? Est-ce qu'il est relié à autre chose qu'il y a dans votre bagage vidéoludique? Je ne sais pas si quelqu'un veut se lancer, si ça vous fait écho ce que je dis.
Je t'en prie.
Du coup, Hellblade, alors c'est un truc un petit peu con, en fait. J'y ai joué soit l'année de la sortie, soit l'année d'après, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'était un 14 février, ça je me rappelle. Parce que ça fait pas très longtemps que je suis avec mon copain. Et ça va être la Saint-Valentin. Il me dit, tu veux quoi? Et je lui donne 3 jeux. Et je lui dis, tu prends un des 3. Et c'est bon. Et de mémoire, il y avait We Happy Few, Vampire et Hellblade. Et il a acheté Hellblade.
Ok.
Coup, voilà. Et ça a été incroyable.
Ok, du coup, c'était un coup de foudre, mais pour le jeu.
Ouais, complètement.
Trop bien. Ok, toi, Naïm, l'accroche que t'as avec...
Moi, en fait, j'ai beaucoup de jeux comme ça en backlog que je me dis, bon, c'est un pilier que je dois faire. Mm-hmm. Et donc, j'ai moi-même un podcast qui parle de notre rapport à la pop culture.
Ok.
Et d'office, je parle aussi des jeux vidéo. Je sais pas si je peux faire de l'autopromo.
Bien sûr, mais tout est le bienvenu. Hein.
Ok, bah, donc mon podcast, ça s'appelle Popologie, et le dernier épisode vient juste de sortir, et ça parle de tout ce qui est simulation de vie, donc les Sims, Animal Crossing, Tomodachi Life. Mm-hmm. Est-ce que c'est des jeux ou est-ce que c'est des refuges? Donc c'est la question que je pose.
Ok.
Mais bref, c'est pas pour ça qu'on est là. Donc, total opposé d'Animal Crossing, Hellblade.
Mais qu'est-ce qu'on fait là?
Et en gros... Bah, du coup, moi, je voulais voir un petit peu des jeux qui parlaient de santé mentale, qui illustraient ça. Donc, j'avais enchaîné plusieurs jeux comme ça, donc dont Céleste, par exemple, ouais. Ou Gris, ou enfin plein de petites pépites comme ça. Et il y avait Hellblade dedans. Et voilà. Et juste, je l'ai lancé. Je savais à quoi je devais m'attendre, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien fait. Et surtout, je m'attendais pas à ce que, et je pense que tu vas en parler plus tard, à ce que le gameplay soit autant mis en retrait, mais que la narration compense super bien tout ça. Mmh. Et ça, c'est quand même un truc assez chouette avec ce jeu. Donc ouais, je l'ai fait récemment, mais il n'y avait pas de contexte particulier, si ce n'est l'envie de le découvrir.
Oui, et ce contexte de faire quand même de remplir un peu ce catalogue de jeux qui traitent la santé mentale.
Exactement.
Ça, tu dis. Ouais. Ok. Pour ma part, moi, je l'ai découvert. J'étais en train de. Je pensais que j'allais reprendre un master à l'ULV. J'étais dans ma première année. J'étais là. Ouais, c'est quoi? Vas-y, j'ai le temps et tout. Spoiler alert, j'ai pas fini. Mais je compte pas le terminer. Mais dans ce super aventure, j'ai rencontré des professeurs et des élèves qui aimaient beaucoup le jeu vidéo. Et on a créé un Discord. Enfin, il existait déjà. En fait, j'ai rejoint un Discord de discussion autour du jeu vidéo. Donc avec un côté plus, on va dire, recherche intellectuelle, universitaire et tout ça. Et on s'était fait toute une séquence sur le jeu vidéo d'horreur. Et, du coup, Hellblade est venu dedans. Petite rue, on en parlait juste avant off. Est-ce que Hellblade rentre dans l'horreur ou pas? En tout cas, on est d'accord que c'est un jeu vidéo avec une tension psychologique quand même assez forte. On sait que la psychologie, c'est quand même souvent un truc utilisé en horreur. Ça peut, bon voilà. On va pas forcément déblatérer là-dessus, mais en tout cas, on avait tout un... Donc toi, tu disais que c'était plutôt la psychologie dans le jeu vidéo, ne c'était plutôt comme la sensation d'horreur. Parce que finalement, c'est peut-être pas forcément un jeu d'horreur Hellblade, mais c'est comme on l'a dit en off, c'est un jeu qui utilise certains codes, notamment des corps morts pendus partout, ouais. Voilà, la psychose, des choses où voilà, on doute parfois de ce qu'on fait, le doute aussi fait tu te dis qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va m'arriver.
Mais... Ouais, et par rapport à ce que tu disais, c'est que, par exemple, les corps morts ou des choses comme ça, ça fait partie de la mythologie qu'on retrouve dans le jeu.
Tout à
Donc,
fait.
En vrai, ils auraient pas pu la représenter autrement que comme ça. Donc, c'est juste les codes horrifiques de base font partie de la narration qui existait à la base. Est-ce qu'ils en ont rajouté? Oui, de temps en temps. Par exemple, avec, j'ai oublié le nom du chien qui garde l'enfer. Ouais, c'est ça, voilà. Donc, où il est représenté d'une façon un petit peu plus monstrueuse.
Cadavéreuse.
Ouais, c'est ça. Mais pour moi, oui, il crée une tension, mais c'est pas un jeu d'horreur en soi.
Ouais.
C'est pas son but, en tout
cas.
Tout
à fait.
Je l'aurais pas mis en premier dans les jeux d'horreur, en tout cas.
Non. On avait fait d'autres jeux. Il y en a un qui s'appelle Decarnation, je sais pas si vous connaissez.
C'est le truc tout en pixel, là.
Ça, ouais. Ouais, c'est en pixel.
Il est dans ma liste aussi.
Mais ouais, ça, tu joues la vie d'une artiste qui se fait kidnapper et qui est dans une cage qui ressemble à une petite chambre. Et mais ça, pareil, c'est pas forcément... Bah, ouais.
Ah si, ça, c'est un peu plus horreur.
Ouais, c'est un peu plus horreur, mais c'est aussi très psychologique. Donc, oui. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que voilà. Donc, d'ailleurs, big up, du coup, à la petite équipe de gens de ce Discord, Gameplay ULB. Et n'hésitez pas, d'ailleurs, ils font encore des événements. Ils font parfois des journées de réflexion autour du jeu vidéo au sein même de l'ULB. Je sais qu'ils avaient acquis des casques VR pour aller un peu plus deep dans ce sujet-là. Donc voilà. Mais un peu du coup une approche plus proche de la tienne, je dirais, Naïm, de savoir qu'il fait référence à... Il a une certaine place dans le média jeu vidéo, ce jeu, Hellblade. Et donc l'envie de le découvrir et de voir ce qu'il a à nous proposer. Je vous ai proposé un angle qui moi m'intéressait parce que c'est aussi un angle qui permet de parler de plein d'autres choses. Je pense, d'après moi, que Hellblade est un documentaire interactif et donc je voulais voilà un peu partir sur cette thématique qui est comment le jeu vidéo peut être porteur de d'informations. D'un point de vue documentaire, comment il peut nous faire vivre, nous faire comprendre des choses. Ici, on parle de santé mentale notamment, mais aussi, tu l'as évoqué tout à l'heure, comment il peut nous transmettre notamment des savoirs au niveau de, ici, la mythologie nordique. On va prendre ce petit virage-là et on va essayer de décortiquer ça selon plusieurs points qui vont peut-être aller dans ce sens-là du fait donc qui vont appuyer cette sensation documentaire ou qui vont peut-être être mis en arrière. Tu parlais tout à l'heure un peu du gameplay qui je pense appuie justement le fait qu'on puisse avoir le cerveau disponible pour comprendre tout ce qui se passe, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Mais voilà, donc on va parler des visuels du jeu, parce qu'on l'a déjà évoqué, c'est un pan important. On va parler du sound design, on va parler aussi des thématiques qui sont abordées dans ce sujet, on va parler du gameplay et puis en fin d'émission on vous fera quelques petites recommandations comme d'habitude. On aime bien, si vous avez aimé un jeu, de vous rediriger vers d'autres jeux qui pourraient vous donner la même ambiance ou qui pourraient vous donner la même sensation manette en main. Voilà, on essaye un petit peu en tout cas de toujours créer des chemins vers encore plus de jeux. donc voilà, est-ce qu'on s'attaque au visuel? On l'a dit tout à l'heure, les visuels de Hellblade. Mais alors peut-être, avant tout ça, quand même faire un petit résumé. Si vous me permettez, Hellblade, le jeu commence et on incarne Senua, qui semble être une espèce de chamane nordique qui est sur une barque, qui avance dans l'eau, et déjà à ce moment-là, il y a des corps pendus à droite, à gauche. Et la particularité qui nous frappe directement, c'est que il y a des voix. Il y a plusieurs voix qui nous parlent. Et voilà, on est sur cette barque, on avance, il y a le générique de début. Et puis on arrive à un endroit qu'on comprend être Helheim, ou en tout cas l'entrée de Helheim, qui serait du coup l'enfer nordique, c'est ça ?
C'est ça.
Et on va devoir passer des épreuves pour rentrer dans cet enfer et bien faire quelque chose ou faire plusieurs choses, ou en tout cas avoir cette espèce de parcours initiatique qui va traverser plein de thématiques différentes et qu'on abordera. Voilà, donc point de vue visuel, maintenant si on s'attaque là-dessus, c'est très très réaliste. Vous, comment est-ce que vous décririez l'atmosphère d'Hellblade en termes visuels?
Le premier mot qui me vient, moi, c'est boueux.
Ah oui. Oui, c'est vrai qu'il y a des passages dans des marécages.
Il y a presque que ça.
Ouais.
Non, mais c'est, il y a beaucoup de ça. C'est très boueux, c'est très humide, c'est très des rochers, c'est très gris. J'ai presque envie de dire, mais pas d'une façon péjorative, c'est très islandais.
Ah oui, oui, oui.
Non, c'est clair.
Mais tu prends l'Islande et t'enlèves la pelouse, quoi. C'est un peu ça. Donc, non. Et puis surtout, techniquement, c'est très, très réaliste. Les effets de particules, la brume, les réflexions sont super bien faits.
Ouais.
Enfin, c'est incroyable comment tout est mis au service de la narration. Et puis surtout, il y a un truc aussi que j'aime bien dans le jeu. C'est que même si par certains moments c'est moins bien fait, ça reste un jeu où t'es sur des rails mais t'as pas trop l'impression. On n'est pas dans les Resident Evil où t'as de la peinture jaune qui te dit où aller, quoi.
Ouais.
Ouais, c'est vrai.
Oui, donc t'as pas, oui, c'est ça, t'as pas cette petite flèche par terre qui te dit va par là, sinon en fait tu nous fais chier, tu perds ton temps. Ok, toi Dova, quand on a préparé l'émission, tu me parlais en termes visuels notamment des expressions faciales de Senua, et de à quel point d'après toi ça venait participer au thème, notamment au thème psychologique qu'abordait le jeu.
Ouais, ben moi, dans Hellblade, ce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, c'est vraiment les animations. Parce que, effectivement, des jeux qui se permettaient des animations faciales comme celle-là, quand le jeu est sorti, il n'y en avait pas des masses. Moi, il y a The Last of Us qui me vient en tête, mais à part ça, il n'y avait pas énormément. C'était, enfin, pour moi, c'était incroyable, quoi. J'avais jamais vu ça de ma vie. Et avec le recul, en l'ayant refait, je me rends compte aussi que il se permet de faire un truc que pas tous les jeux vidéo se permettent, c'est de mettre du silence avec juste du body language, tu vois. Et bah, y a pas énormément de jeux qui se le permettent. Il y en a des très bons, mais ça demande une qualité d'animation, de pouvoir se permettre de montrer un truc et juste de le montrer avec l'animation et pas avec quelqu'un qui parle ou avec des dialogues ou whatever. Et ça, c'était vraiment ce qui m'avait le plus accroché dans le jeu, quoi.
C'est ça, donc à quel point en fait la technique permet d'avoir un langage corporel. C'est vrai que quand elle... Parce que donc il y a des petites séances, il y a des petits moments de combat quand même dans ce jeu, mais même là, je trouve qu'elle a un langage très presque dans la danse, presque dans... Voilà, elle a un corps quand même qui... Parfois peut être très raide et parfois peut être hyper fluide. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et quand tu le dis, il y a des moments hyper de silence où on voit juste ses yeux écarquillés et on la voit, elle, et on sait même limite pas ce qu'elle regarde encore, mais on se dit, attends, là, il y a un truc, il y a un truc chaud en face d'elle, mais on veut pas encore me dire quoi. Parfois, on le dit même pas. Donc, oui, c'est vrai que c'est assez rare de pouvoir comment dire, observer ton personnage et comprendre certaines choses sans ce dialogue qui te dit « Oh zut, qu'est-ce qu'il y a derrière moi
C'est ça.
Donc,
Ouais, il y a un moment hein, qui pour moi reflète bien ce que tu viens de dire, c'est la première fois où tu te rends compte que y a le truc noir, la pourriture,
ouais.
J'ai oublié le truc des ténèbres là, qui commence à l'envahir. Et en gros, bah il y a déjà sa réaction par rapport à ça, la capture de ce truc-là, c'est assez ouf. Et puis il y a quand elle commence à se gratter, et là c'est trop bien fait parce que t'as vraiment le sentiment de elle gratte de la peau, quoi. C'est pas comme dans un autre jeu où t'as le modèle 3D de la main qui est en train de gratter le modèle 3D de l'autre bras, quoi, tu
Oui,
vois.
non, c'est vraiment, t'as l'impression d'être face à un être humain qui se gratte. Tout à fait. Oui, et c'est, faut dire quand même que ça a été, du coup, ça a nécessité un jeu d'acteur et d'actrice. Il n'y a pas que d'ailleurs du modèle 3D, il y a parfois de la vidéo carrément qui est incorporée dedans, notamment parce que du coup on parle de Senua, mais il y a beaucoup de personnages qui gravitent autour de Senua, parfois qui sont vraiment dans Senua, si on peut dire. En tout cas, elle les incarne aussi. On va y revenir plus tard, mais en tout cas sur tous ces personnages. Mais je veux dire que la technique, donc c'est pas, il y a eu du jeu d'acteur, il me semble qu'il y a eu du motion capture. Il y a...
Oui, complètement, oui.
Donc ça, c'est quand même... bon, voilà, je veux dire, je pense, en termes jeux vidéo, on peut presque dire que c'est ce que Seigneur des Anneaux a fait à l'époque en termes de film, parce que Gollum a aussi été, par exemple, une prouesse en termes de motion capture. Et ben voilà, je pense que c'est vraiment le truc où, après avoir vu ça, tout le monde s'est dit, ah ben oui, en fait, on peut créer des personnages en motion capture qui ont une profondeur, qui ont une histoire, qui ont des expressions aussi. C'est la même chose, hein. Gollum a beaucoup d'expressions faciales aussi. Je pense que Hellblade a un peu ce rôle-là de pierre, de dire, regardez les gars ce qu'on peut faire, allons-y, faisons du motion capture et donnons de l'expression, donnons du corps à nos personnages, quoi.
Bah, c'est un peu cette vibe, viens, on fait du cinéma, mais dans un jeu vidéo, quoi.
C'est ça. Mais du coup, ça, c'est hyper intéressant que tu dises ça parce que dans ce chapitre visuel, j'avais envie quand même de poser la question de est-ce qu'après vous, est-ce que d'après vous, pardon, après vous, est-ce que d'après vous, ce réalisme, cette prouesse dans le détail, de un, je pense qu'on est d'accord que dans Hellblade, c'est nécessaire, mais est-ce que pour aborder des sujets tels que la psychose, des sujets très humains, est-ce que pour vous, c'est nécessaire? Parce qu'il y a quand même ce gros truc de, ben voilà, on voit, on est encore, tout le monde est encore en train d'attendre GTA 6 qui va sortir, oh mon Dieu, ça va être génial, ça va ressembler à la vraie vie, sauf qu'on va pouvoir tout péter. Est-ce que c'est nécessaire d'après vous? Je trouve que c'est une question qui se pose souvent, mais qui reste importante parce qu'on n'a pas terminé, je pense, d'un peu répondre à ça. Quel est votre sentiment? Est-ce qu'on peut avoir des trucs abstraits qui nous parlent tout autant, en termes de psychologie, je veux dire, et en termes humains, vraiment sentiments humains.
Bah, moi, je trouve que ça dépend qu'est-ce qui est mis au service de quoi. Pour moi, le réalisme, l'hyper-réalisme, si c'est pour incarner un personnage qui voit, qui entend des choses dans sa tête, qui a l'impression d'avoir des illusions autour d'elle, etc., on a besoin de ça pour le vivre aussi et pour créer une certaine empathie, surtout que la narration de ce jeu-là, donc de Hellblade, c'est quand même une narration qui raconte un cheminement dans lequel beaucoup de gens pourraient se projeter. On parle de deuil, et donc pour parler de deuil, j'ai l'impression, en tout cas de parler de deuil et de santé mentale comme ça, j'ai l'impression que c'est important dans ce jeu. Après, il y a aussi des choses qui peuvent être beaucoup plus abstraites. Là, ils ont fait le choix de les concrétiser comme ça. Et à nouveau, il ne faut pas nier le fait que le studio derrière, c'est un studio très technicien. Donc, il y a des jeux qui vont parler de ça. Par exemple, je disais tout à l'heure Céleste, et je reviens sur ça parce que c'est ce qui me vient en tête, où c'est beaucoup plus abstrait, c'est beaucoup plus pixel art. Il y a des trucs qui vont être... je veux dire, le jeu, t'es quand même en train de grimper une montagne. Et ça représente aussi le chemin vers la guérison d'une dépression, etc. etc. Et puis, t'as des trucs très figuratifs où, à un moment... peut-être je spoil, là, je sais pas.
Lequel? Tu veux spoiler quoi, Céleste ou Hellblade?
Non, Céleste.
C'est pas grave, vas-y, moi je veux pas de problème avec ça.
Donc, et où à un moment tu dois te battre contre ton double maléfique. Mm-hmm. Bon, c'est un truc qu'on a déjà vu beaucoup de fois dans plein de trucs de pop culture. T'as même ça dans Scott Pilgrim par exemple, quoi. Mais en gros, voilà, ils jonglent un petit peu avec tout. Mais je pense pas que l'un empêche l'autre. Je pense surtout que qu'est-ce que t'as envie de mettre en avant quand t'es en train de faire ton jeu et c'est quoi la partie la plus importante pour toi.
Ouais. Mm-hmm. Tout à l'heure, Dova, je parlais de Decarnation. Pareil, c'est du pixel art. Est-ce que dans Decarnation, tu as aussi pu avoir cette empathie? Tu as aussi pu ressentir des choses humaines? J'imagine que oui.
Hein. Moi, je l'ai fait en stream, ce jeu, et je me rappelle très bien d'un moment précis dans le jeu où il s'est passé un truc. Et je suis restée scotchée sur ma chaise. Je me suis dit, je sais pas comment 10 carrés sur un écran peuvent faire un truc pareil.
Tout à fait, oui.
Il y a vraiment ce jeu, il est, en termes de narration et d'ambiance, il est incroyable. Et il y a vraiment plein de moments où tu te sens pas bien.
Ouais.
Et c'est hyper oppressant. Et ça n'a rien à voir avec le fait que ça soit du pixel art ou du photoréalisme. Je pense qu'on peut faire tout avec tout. Ouais. Tant qu'on en a l'intention, en fait.
Tout à fait, c'est ça. Donc, la petite conclusion, ce serait de dire tant qu'on a un propos et qu'on a une manière de le raconter, c'est ça qui est le plus intéressant, et que les deux aillent en parallèle et rencontrer le même but, finalement, et pas que un serve l'autre. Ils se servent l'un l'autre, entre guillemets, mais s'il y en a un qui est juste là parce qu'il a envie d'être là sans forcément répondre, entre guillemets, et s'il répond à un cahier des charges visuel, mais pas à un cahier des charges narratif ou un cahier des charges thématique, là, ça devient problématique, clairement.
Ouais, c'est ça.
On te regarde, Hellblade 2.
Ah, très bien, c'est bien, tu teases, j'aime beaucoup. Ok, mais donc ça, c'était pour les visuels, donc si, pour se faire une petite idée, en tout cas, je pense que c'était déjà bien de se dire, si vous jouez à Hellblade, face à un jeu très très réaliste, avec des ambiances de forêt, des ambiances de montagne, qui tout doucement les ténèbres apparaissent. Parce que je me souviens, dans les premières maps, il y a quand même du soleil.
Oui, il y a de la lumière. Ouais.
Voilà, il y a de la lumière, mais la lumière, elle s'en va tout doucement, et les ténèbres, ils arrivent de plus en plus et ils s'impriment même sur toi. Donc voilà, ça c'était pour le petit côté visuel. Pour le sound design quand même, qui vient compléter quand même avec une belle éloquence, on va dire, ce visuel hyper proche. Tu parlais tout à l'heure de particules visuelles. On a des particules sonores, j'ai envie de dire, presque. C'est vrai, quand on est dans cette forêt, on a vraiment l'impression d'y être, quoi. Je sais pas si vous, quelle sensation vous avez pu. Est-ce que ça complète? Est-ce que ça va vraiment dans le sens du visuel aussi? Est-ce que ça apporte autre chose? Il y a cette histoire de voix quand même. Il y a le fait que chaque personnage a sa voix qui est quand même assez proche. Le père notamment de Senua qui a cette voix très caverneuse, très enfer en fait. Vous, comment vous l'avez ressenti cet audio?
Déjà, il y a tout le travail sur les voix de Senua, juste sans les voix des autres personnages qui est déjà incroyable. Je veux dire, il y a vraiment... il y a le son spatial, t'es en 360. On te recommande dès le début de jouer avec un casque. Mmh. Et puis, c'est vraiment incroyable. Et en fait, quand on y fait attention, on se rend compte que les voix, elles ont une place dans ta tête. Et généralement, c'est les mêmes. Et de temps en temps, elles bougent. Et quand elles bougent, en général, c'est parce qu'il se passe des trucs pas ouf. C'est du détail, mais c'est hyper important dans l'immersion. Et puis, ça marche vraiment bien, quoi. Par contre, faut être préparé à pouvoir encaisser un truc comme ça aussi. Parce que je sais que ça peut être super oppressant. Moi, je sais qu'il y a des gens à qui j'ai recommandé le jeu, qui ont joué une heure et qui ont dit « Mais moi, je peux pas, en fait, c'est pas possible. »
C'est envahissant, ouais.
Ouais, c'est ça, voilà. c'est hyper malaisant et il suffit que t'aies déjà, tu vois, si toi t'as déjà ton cerveau qui va à 1000 à l'heure et en plus il y a trois autres personnes qui te crient dessus quand tu fais des trucs, enfin c'est... Ouais.
Stop, non, stop.
Mais surtout qu'elles se contredisent en plus des fois, donc enfin c'est...
Non, tatoué.
C'est ça.
Ouais, moi je fais un peu partie des gens qui jouaient par tranche parce que j'avais un petit peu ce truc aussi de... Je trouvais ça assez oppressant, mais ça faisait partie de l'expérience de jeu, donc pour moi... Le son, c'est une expérience en tant que telle, quoi. C'est juste fou comment c'est fait. Apparemment, il y a tout un travail derrière qui a été fait avec des neuropsies pour vraiment essayer de représenter au mieux ce à quoi les gens qui sont atteints de ça sont confrontés. Mmh. Donc, de ça, c'est de la schizophrénie et des troubles dissociatifs a priori. Et donc, je trouve que c'est vraiment assez bien fait parce qu'en plus, quand tu parlais de spatialisation, c'est aussi même la distance. C'est même pas juste le fait que ce soit autour, c'est que parfois, t'as une voix qui est un petit peu plus timide, qui va être plus en retrait.
Ouais.
Puis parfois, cette voix timide, quand elle craint un truc, ben en fait, elle va se mettre en avant, elle va surplomber les autres.
Elle va se rapprocher de ton oreille, en fait.
Ouais, c'est ça. Et t'as un peu ce côté, t'as une voix qui va être plus celle qui te conseille des trucs, mais qui n'ose pas, et des choses comme ça. Et puis, t'as aussi, tu parlais de la voix caverneuse, ça c'est une chose, mais la voix de celle pour qui elle fait tout ce chemin, d'Ilion, il a aussi une voix qui dénote avec tout le reste. Et comment il s'appelle, le mythologue
Druss.
Ah ouais, voilà. Donc, Druss
Bob, ouais, voilà. Je sais pas.
Druss. il a aussi sa voix qui fait très... Je vais pas dire Morgan Freeman, mais il y a ce côté... dans tout ce bazar... Il reste posé et il raconte ce qui se passe et il donne des conseils avec beaucoup d'intensité quand même.
Ouais, il peut avoir une voix très épique. Hein.
Ouais.
Quand il raconte justement « It was the Ragnarok !»
C'est ça. Mais c'est plus un talent de narrateur que quelqu'un qui est en train de paniquer face à une situation.
Ouais, complètement. Ouais.
D'ailleurs, je trouve que c'est vraiment celui qui incarne... Enfin, t'es limite en train d'écouter une histoire en même temps que tu joues. Mmh. Quoi. Mmh. Donc, c'est littéralement
c'est,
ça.
Oui, c'est ça, parce qu'elles se suivent. Donc,
C'est ça. Donc, c'est cette espèce de... Je pense que c'est aussi d'ailleurs un espèce de chaman, ou en tout cas, il a...
Ah, c'est un druide.
Oui, c'est un druide, voilà. Qui aurait d'ailleurs appris certaines choses à Sénois et qui, du coup, au début, on le rencontre et il prend place dans sa tête, comme toutes les autres voix, tranquille, il s'installe. Et au fur et à mesure, on va débloquer des runes nordiques et chaque rune va représenter un fragment d'un bout d'une histoire mythologie nordique. Yes, trop bien. Eh bien, je pense qu'on a déjà fait un bon petit tour du propriétaire du jeu. Je vous propose, tant qu'on est sur le son, de passer en musique. On fait une petite pause pour vous revenir encore plus frais juste après. Cette musique, je l'ai sélectionnée parce que d'après moi, elle était parfaite pour le thème. C'est un artiste belge, bruxellois même, que dis-je, Silla, déjà, petite parenthèse, il a un nom quand même de la mythologie grecque. Donc bon, on est déjà dans le thème rien qu'avec l'artiste. Mais puis là, ça fait longtemps, ça fait 13 ans maintenant qu'elle existe cette chanson. Il nous parle de second souffle, de ce sentiment d'être une personne qui a besoin de laisser derrière soi certaines choses et d'aller vers une espèce de renaissance pour être en accord avec soi-même, ce qui, je pense, est quand même pas mal lié à notre thème du jour. Donc je vous propose qu'on aille là-dessus, ça va durer 4, presque 5 minutes, et après ça, on se retrouve pour continuer de décortiquer notre œuvre de jour, Hellblade, mais on fait une petite pause, c'est Silla, second souffle, à tout de suite.
J'en ai parfaitement conscience, j'ai de la chance lorsque je pense à ce que certains endurent. Que se plaindre est une offense quand t'as la peau du ventre bien tendue. Y'a pas de quoi crier vengeance, j'ai juste changé d'école. Je n'ai pas passé mon enfance à devoir enjamber des corps. Je n'ai vu personne se faire exterminer, hormis sur un tout petit écran. Ma famille se faire tuer et puis n'entendre que le soupir des anges. Ma dignité humaine se voir sauvagement dégradée. Contraint de n'être que l'esclave sexuel de pervers détraqués. L'objet de quelques sous-hommes, leur complexe et leur pulsation. Et ne former rien d'autre que le réceptacle de la frustration. Non, je n'ai pas eu à vivre tout cela et souvent j'en ai honte. J'ai bien peur qu'au final ce soit à genoux que j'en rendrai compte. Je ne risque pas la pendaison pour m'être exprimé librement. Je passe mes coups de gueule, peut-être un brin trop égoïstement. En quelques textes, je tiens le cap et tente de me restaurer les crocs. Je perds ailleurs pour moins que ça, je me serais fait sectionner les paupières. Putain, mais pourquoi moi, frère, d'où me viennent ces privilèges? Pourquoi n'ai-je que le cul dans le beurre quand d'autres siègent dans le frigidaire? Pourquoi ai-je hérité de ces biens sans même l'avoir mérité? Car je me plante permanent. Et tous les soirs je m'endors terrifié. J'ai tout ce qu'il me faut, qu'il ne me manque que des poussières. Ah, alors pourquoi est-ce tellement difficile d'être heureux? Que comparé à d'autres, il semble que les anges me soutiennent. Alors pourquoi est-ce tellement difficile d'être heureux? Ailleurs y'a mille fois pire que moi, comment prétendre que j'ai souffert? Là rien que de m'entendre, l'envie me prend de planquer sous terre. Et s'il est vrai que dans ce pays on vit, on peut mieux. Alors pourquoi? Je ne parviens pas à trouver le bonheur dans cet tas de manque. Je cherche la route à suivre, à quoi ça peut me servir que je m'offre une putain de voiture allemande. Ce n'est pas un BMW série 57 ou un GPS qui m'indiquera ce foutu chemin de la paix intérieure. C'est flagrant, c'est vrai que j'ai une belle montre, toute fashion sous le cadran, qui ne s'arrête pas de me rappeler toutes les heures que je n'ai pas le temps. On me dit que j'ai de la chance, qu'au moins je suis libre de mes gestes lavages. Avec leur cul, je dirais plutôt que j'ai pu choisir mon esclavage. Et école, travail, mort, existence à taux variable. Mes chaînes sont invisibles, elles s'appelle finance actionnariale. On cherche que de la maille. Combien préfère connaître les flammes de l'enfer que de croiser le spectre de la faillite. Check, ouais, c'est très simple, tu veux te rendre indispensable, être un homme bien.
Vous êtes toujours sur Radio Campus, l'émission Dans le Rétro qui parle de jeux vidéo. Et vous l'avez peut-être compris avec cette chanson, les thèmes qu'on va aborder ne sont pas tout rose et tout bleu. Et non, on va aller dans des trucs un peu deep. Puisque ben voilà, le jeu dont on parle, Hellblade, parle de psychose, parle de deuil, parle de choses assez dures à communiquer, assez dures à aborder. Mais il le fait très très bien, ce jeu. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire cette petite pause pendant notre émission et de vous communiquer tout ce qu'on en a retenu et peut-être vous donner envie de prendre votre manette et de jouer à Hellblade, Senua's Sacrifice. On y va, c'est parti, on se lance. Naïm et Dova, vous allez toujours bien? Oh, je vous ai pas donné la parole, désolé. Est-ce que vous allez toujours bien, hein?
Oui.
Ok, j'ai rien. Non, on va pas le faire. je fais des blagues. Sachez que parfois je fais la blague à moi-même. Genre je parle et j'ai pas activé mon micro. Donc, c'est pas contre vous. Par quoi est-ce que vous voulez commencer? Dites-moi un petit peu. Est-ce que vous voulez parler d'abord de psychose, de mythologie, de deuil? Quel est pour vous le thème qui a le plus résonné, peut-être celui qui a et peut-être aussi été le mieux retranscrit? Peut-être qu'ils le sont tous à la même échelle, je sais pas. Peut-être qu'on peut commencer par les psychoses, quand même celui qui est revendiqué par le jeu. C'est-à-dire que dans le jeu, il y a carrément un documentaire, donc une vidéo qui explique comment a été fait le jeu, comment ils se sont renseignés. Je sais que Tova, c'était une partie quand même qui te tenait... Je pense que t'as pris beaucoup de plaisir à regarder ce documentaire après, parce que t'aimes bien. Enfin, on fait partie de gens qui aiment bien décortiquer le jeu de manière générale, mais en plus là, peut-être que ça t'a parlé. Qu'est-ce que ça a fait comme écho chez toi?
En fait, j'aime juste l'approche, tu vois. L'air de rien, ça fait pas dans l'histoire du jeu vidéo, ça fait pas hyper longtemps qu'on parle de santé mentale de base. Mmh. Donc, déjà, je trouvais ça cool. Et alors, vraiment, en fait, le fait d'avoir été se renseigner à ce point-là, de dire, OK, on veut faire un jeu sur les psychoses, mais on va pas juste faire un jeu sur les psychoses, on va aller voir des médecins, on va aller dans des centres psychiatriques, on va discuter avec des gens qui sont sujets à divers problèmes mentaux. Et voilà, on va essayer de créer l'expérience la plus proche possible de ce que ces personnes vivent au quotidien. Et juste, vraiment, le fait d'avoir mis tout ça en place et d'avoir réussi à le retranscrire dans le jeu et que ça fonctionne bien en plus, je trouvais ça génial. Et petite note, je ne sais pas si elle existe encore, mais quand le jeu est sorti, il y avait une hotline que tu pouvais appeler et genre en fait, ils avaient communiqué là-dessus en mode si jamais le jeu fait écho à des choses que vous vivez et que ça, vous fait du mal, et ben genre appelez ce numéro et il y a des gens qui vont s'occuper de vous quoi.
D'accord. Donc toi, ce qui te parle, c'est vraiment la démarche en elle-même. C'est pas des gens qui ont décidé de prendre un thème parce qu'il fallait en prendre un et qui après se sont dit oh oui alors comment on va en faire un jeu et entre guillemets faire jouer les gens sur un thème random. Non, là c'est tout à fait l'inverse. C'est on a le thème, on a envie d'en faire un jeu. Comment on fait pour que ce soit fait de la meilleure manière et que ce soit fait d'une manière quand même aussi sensée et que la démarche aille jusqu'au bout. Donc, comme tu dis, effectivement, d'aller jusqu'à mettre en contact les gens qui traitent ce genre de problème, parce que ça peut être un problème dans la vie de faire face à cette situation-là, d'avoir des psychoses ou d'avoir des voix dans sa tête. Voilà. Peu importe finalement, en fait, juste de se sentir mal, parce que c'est ça la base, c'est le sentiment de mal-être. Et d'aller jusqu'à mettre en contact des professionnels du milieu, des personnes qui font des jeux et des gens qui pourraient en souffrir, c'est vrai que c'est quand même déjà une grosse démarche, quoi. Et c'est, je sais pas s'il y a beaucoup, effectivement, même de films qui font ça, mais c'est, je pense que c'est une caractéristique qui le rapproche du documentaire, d'après moi. Parce que quand on a une démarche documentaire, c'est quand même souvent ce qu'on fait. On va voir, on a un environnement, en fait, qui est celui de notre documentaire. On va aller voir les personnes, on va aller voir les lieux, les environnements qui sont liés à cet espace qu'on a envie de traiter. Et puis après, de là, va découler notre démarche documentaire. Toi, Naïm, je sais pas si dans les différents sujets, tu parlais de deuil tout à l'heure. Est-ce que tu saurais expliquer en quoi il aborde aussi le deuil ?
Moi, ce que je trouve... ce que j'aime beaucoup dans le jeu, c'est que au tout début, on parlait de « Ok, c'est pas Mario », mais par contre, il a quand même réussi à faire un truc, c'est de rendre accessible et de vulgariser presque, via sa narration, un sujet qui va être assez deep, qui va être comme le deuil et aussi les problèmes de santé mentale qu'on peut avoir et comment un deuil peut réactiver ça. Et en fait, ce que j'aime bien dans le jeu, c'est que tout est assez bien intégré et tout se met au service de l'un et de l'autre pour t'amener dans toute cette histoire. Donc, en gros, l'histoire de Hellblade, c'est Noa qui veut ramener son un amoureux à la vie en allant carrément en enfer le chercher. En tout cas, en dealant avec la déesse de Ella. L'enfer. Ella, ouais, voilà. Ouais. Donc, en dealant avec elle pour le ressusciter. Et donc, elle se promène avec sa tête à travers plein d'environnements. Elle doit d'abord battre des incarnations de dieux ou je sais plus quoi. Mais en tout cas, il y en a un qui représente les illusions. L'autre qui est plus le feu. Et on comprend très vite que l'illusion, c'est plutôt lutter contre tout ce qui est ta maladie mentale et tous tes troubles psychotiques. Et tu vas avoir le feu qui va être vraiment de faire face à tes traumas. Et tu vas avoir tout cet aspect où tu vas te battre contre quelqu'un qui incarne tous les éléments traumatiques de ta vie. Et petit à petit, en fait, tu te retrouves dans une histoire où finalement, tu traces ton chemin et tu te bats contre des boss. Mais c'est pas que des boss, c'est pas que des monstres. Ça représente un vrai truc jusqu'à une acceptation de ce qui se passe vraiment, avec une fin incroyable. Je sais pas si je peux spoiler ça. Là, je vais rien dire.
Je préfère ne pas, parce que vu que le but, c'est que les gens jouent quand même.
Mais en tout cas, du coup, ce que je peux dire, c'est que même la caméra, le point de vue est mis au service de ce que ça veut raconter et ce que ça veut te faire comprendre. Et jusqu'à la toute fin. Donc, et rien que pour ça, je trouve que ça vaut la peine de se plonger dans ce jeu, parce que c'est vraiment une chouette façon de raconter ça, quoi. Ce voyage initiatique où t'as toutes les clés pour comprendre on veut t'initier à quoi, et en rajoutant cette notion de psychose, de schizophrénie, etc.
Oui, c'est vrai que comme tu dis, beaucoup de choses se renvoient la balle. On a pris notamment, par exemple, l'exemple tout à l'heure du père de Senua, qu'on va affronter aux portes de l'enfer, qui a une voix aussi très, un peu, voilà, caverneuse, voire, voilà, démoniaque, qui est en fait la représentation incarné des ténèbres qui nous suivent, en fait. Pour moi, en tout cas, je l'ai vu comme ça, une partie des ténèbres qui sont en nous, c'est notre père qui les a amenés, c'est limite le père, en fait. En préparant l'émission, je disais à Dova qu'il y avait une espèce de sous-message freudien parfois dans ce jeu, en mode tue ton père et t'iras mieux et tu iras plus loin et tu te retireras de ce fardeau d'avoir une famille et d'avoir un père qui te dit ce que tu dois faire et qui te dit comment être et tout ça. Non, tue-le et va faire ton chemin, quoi. Et du coup, quand on comprend que les ténèbres, c'est lui, en fait, on comprend que le fait qu'il y ait cette marque noire qui prend possession, enfin qui se marque sur notre corps de plus en plus, c'est presque une visualisation de à quel point on se sent envahi par cet aspect ténébreux. Donc tout ça pour dire qu'en fait, comme tu dis, tout est très très interconnecté. Les personnages vont renvoyer à des symboles, qui vont renvoyer eux-mêmes à des trucs qui se passent visuellement, qui vont renvoyer à des voix, qui vont nous dire des choses, qui vont renvoyer à un truc qui se passe sur l'écran, et ainsi de suite. Et tout est tellement bien tissé que ça forme vraiment une toile, mais qui est pas si... Ce qui est fou, c'est qu'elle est pas si désagréable que ça, en fait. Non, c'est bien balancé, c'est bien équilibré.
Il y a un côté très mathématique, et en fait, aussi, c'est dans toute l'équation scénaristique du truc, c'est que tu regardes si le père n'existe pas, il n'y a pas toute l'histoire de sa maman,
mais oui.
Il n'y a pas le trauma, et en même temps, si ça n'existe pas, elle ne rencontre pas Dillion, et en même temps, si ça n'existe pas, il n'y a pas Druth, qui l'aide aussi, et machin, et en fait... Tout ce... Vraiment, c'est une belle petite toile d'araignée, toute bien faite, avec des beaux petits carrés partout.
Ouais, tout à fait. Mais après, tu vois, par exemple, je trouve que ça, c'est un truc qu'ils ont vraiment mis en avant. Et que je trouve qu'il était un message aussi hyper important. Je trouve que ça parle quand même... Le personnage de la maman parle quand même de la condition de la femme. Enfin, je sais pas, il y a un truc où, en tout cas... Et tu l'as dit toi-même, on nous fait ressentir que que en fait le père a conditionné la vie de la mère et a conditionné la vie de Senua. Je trouve ça hyper fort. Franchement, au moment où je me suis rendu compte de ça pendant le jeu, je me suis dit, mais attends, là, le message qu'il essaye de faire passer est quand même très balèze, il y a 10 ans aussi, donc, et c'est encore hyper actuel, c'est vraiment de se dire, en fait, on est dans un monde d'hommes, on est dans un monde où c'est eux qui décident, s'ils lèvent le pouce vers le haut, tu vis, s'ils lèvent le bas, tu crèves, et jusqu'à brûler sa femme, en fait.
Ouais.
C'est quand même trash, quoi.
Ouais, non, c'est clair. Et il y a deux meufs dans le jeu et elles sont oppressées, quoi.
Voilà.
C'est vraiment ça.
Elles sont même. Enfin, il y en a une des deux qui est tuée et l'autre qui est.
Ouais.
Non, mais voilà, tout ça pour dire que. Donc, ça, c'est intéressant. C'est encore une trace. Il y a plein de traces, en fait, de signification dans tous les coins. Il y a la religion, il y a la superstition, il y a la confiance en soi qui est aussi quand même une. Il y a la folie, il y a les relations humaines. Un truc que je trouvais intéressant à mettre en avant quand même, donc c'est par rapport à la mythologie. Ce qu'on avait, en discutant, en préparant l'émission avec Dova, on avait remarqué qu'en fait, chaque personnage incarnait justement un niveau de lecture différent. Par exemple, du coup, Dillion incarne un peu l'arc narratif du deuil, comme tu l'as dit. Druth incarne la mythologie. Le père incarne la religion... la superstition et l'oppression que ça peut avoir. La maman incarne de l'autre côté l'opprimé et donc aussi toutes ces personnes qui peuvent qui essayent d'avoir une existence mais qui se font taire, en fait. Elle se fait taire, hein, vraiment. Donc c'est vraiment, ça fait partie comme tu dis un petit peu de ce puzzle hyper bien fait, quoi, où chaque pièce va venir prendre une place qui est la sienne, et on s'en rend compte, en fait, quand on essaye de prendre du recul par rapport au jeu. Et je trouve que ça parle de la richesse de l'écriture, ça parle de la richesse de la préparation dont on parlait tout à l'heure. Je pense que sans cette préparation, sans ce temps donné pour aller voir des personnes malades, pour se dire on va mettre en place une hotline et tout ça, on rentre pas dans des trucs aussi bien ficelés. Ou en tout cas, c'est beaucoup moins facile de faire croire que c'est bien ficelé. Parce que quand c'est du faux, entre guillemets, on le sent un peu. Je trouve qu'un truc creux dans un jeu vidéo ou dans n'importe quel art, parfois ça se ressent vraiment fort. Quoi. Donc,
Non, c'est vrai. Après tout, les jeux vidéo n'ont pas le même rôle et ne sont pas prédestinés à avoir le même poids. Et ce que je voulais dire aussi, ah oui, et ce qui est surtout notable dans ce jeu-là, c'est que ils ont réussi à faire ça avec quand même plusieurs personnages. Là où depuis tout à l'heure, je pense à Silent Hill 2, dans Silent Hill 2, il y a aussi tout un truc où t'explores ta psyché par rapport à des traumas ou des choses, etc. Mais en fait, finalement, ça reste quand même qu'un personnage que tu suis. J'adore ce jeu, mais peu importe, c'est pas le sujet, c'est juste, tu suis un personnage, tu suis son cheminement à lui, et les autres personnages que tu croises, ils ont leur propre chemin aussi, et tu pourrais presque avoir un autre jeu sur eux aussi, quoi, un spin-off sur eux. C'est pas non plus que t'as plein d'interactions entre eux, et t'as pas tout un truc de prendre conscience que y a des choses qui... une sorte de fatalité à accepter que tu as dans Senua's Sacrifice, où petit à petit, elle doit juste comprendre que les choses sont comme elles sont. Parce qu'au final, il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est que le fait qu'elle aille qu'elle suive Dillion et qu'elle a sa petite vie avec Dillion et puis que tout le monde crève, elle se sent aussi responsable de ça. Parce que c'est aussi ce qu'elle avait intégré, etc.
Ah oui, c'est ça.
Et alors que ben, ça, c'est un truc, je ne vais pas dire que c'est un choix, mais c'est finalement, ça c'est toi et toi.
Ah donc, oui, c'est ça. C'est... Tout à fait. Et la fin, enfin en tout cas, les derniers moments de jeu nous poussent face à ça. Et en fait, c'est vrai que c'est un des messages, c'est de dire que ton point de vue sur la réalité, c'est toi qui tu en es maître quand même. Donc il y a beau avoir tout ce truc là de t'as grandi avec un père qui t'a donné des idées complètement sombres, il a même manipulé tout le village qui est autour de toi parce qu'il a fait penser à tout le village que t'étais responsable d'une épidémie qui a eu, tout le monde t'en a voulu, ton l'amour de ta vie en est mort, et en fait ça reste un truc, c'est de dire alors bien sûr t'es impacté, bien sûr il y a des choses tu peux pas enlever tout de ce que tu as vécu. Mais par contre, tu peux choisir quand même l'angle avec lequel tu regardes ça. Et tu peux choisir la position que tu prends face à ta propre histoire.
Ouais. Je vais spoiler la fin du jeu. En fait, à la fin, ils disent « Tu es triste, arrête.
» Ah oui, oui, ouais. Oh, le spoil. Oui, mais c'est vrai, c'est la conclusion. mais par contre, ça n'empêche rien à tout le chemin qui est tracé entre eux et qui est hyper nécessaire. Je trouve que vraiment passer par ces heures de jeu, dans toutes ces atmosphères, ces petits combats et tout ça, c'est important, et ça fait que quand on arrive à cette conclusion-là, ça fait écho à tout ce qu'on a vécu, quoi. Il nous reste exactement 6 minutes. Mais très très bien, parce que un des sujets qui reste, c'est un des celui dont on va parler le moins, parce que moi j'ai l'impression qu'on peut le résumer aussi en une phrase du jeu, c'est the hardest battle is in the mind, not in the sword. Donc ça veut dire que vous avez une épée, mais vous n'allez pas en faire grand chose quand même. Bon voilà, tout ça pour dire que voilà, le gameplay, c'est il y a pas de gameplay, enfin pour moi le plus c'est du contemplatif et du narratif. Puis après on a au-dessus de ça une couche d'énigmes. Et puis aussi on a une toute petite couche de combat où vraiment on a un coup de pied, on a une attaque faible, une attaque lourde, et on a une parade.
Ouais.
Et après,
une esquive.
Voilà, une esquive aussi, c'est vrai. Et à partir de ce moment-là, tu vas avoir des combats au début contre 2 gars, puis contre 5, puis contre 10, puis contre 20. Puis le dernier, en fait, tu vas te rendre compte qu'ils apparaissent tout le temps. Donc tu vas peut-être décider de faire autre chose que de te battre. Enfin voilà, il y a cette... comment dire, ce truc-là où... On va revenir à un truc que tu as dit au début, c'est de ce jeu-là n'est pas forcément un jeu où on va s'attendre à jouer. Mais c'est pour ça, je trouve, que je voulais le prendre sous l'angle documentaire, parce que c'est vraiment, il faut y aller pour ce qu'il raconte, pas pour les sensations vidéoludiques qui va nous... C'est pas un Mario Kart, quoi. C'est pas Tekken, pas du tout. C'est un jeu qui va vous dire des choses, qui va vous parler, qui va vous montrer. Et si vous êtes sensible à ça, foncez. Par contre, si vous cherchez absolument une expérience hyper complexe dans les combos, dans le fait d'être toujours à l'affût comme dans Dark Souls, il y a un truc qui peut te tomber dessus à la moindre seconde. Non, là c'est très très clair, tu rentres dans un combat, la vue change, tout est différent, t'es une espèce dans une bulle de combat, puis t'as tué tout le monde, tu sors de cette bulle de combat et tu reprends ton chemin. Donc voilà, on va vite passer sur le gameplay parce que finalement c'est pas le propos, je pense que c'est pas le propos du jeu. Et par contre, il reste, pour ce qu'il fait, il est correct. Je pense, voilà, il est pas hyper fou, mais il fait ce qu'il a à faire. Et aussi, ben voilà, comme c'est un, comme on l'a dit, c'est un voyage initiatique et on se bat contre soi-même, ben, le fait d'avoir un peu de combat, c'était quand même un peu nécessaire, je pense, parce que des énigmes aussi, bon, ça aurait été peut-être trop long, trop vaporeux, trop que le nous combattre un peu de temps en temps, ça permet d'oublier, ok, je me concentre sur le fait qu'on va me taper dessus, puis après je reviens dans l'histoire.
Quoi. Ouais, mais après je pense qu'en fait le combat de la fin était nécessaire, et du coup pour l'instaurer il fallait qu'il y en ait.
Fallait qu'il y ait d'autres.
C'est
ouais,
ça.
C'est vrai, tout à fait. Yes, ben voilà, c'était la parenthèse sur le gameplay. Je pense que c'est la plus petite parenthèse sur le gameplay qu'on fera dans tous les épisodes confondus. Voici maintenant venu le temps des recommandations. C'est pour moi un moment important parce que donc si vous avez fait, donc déjà j'espère qu'on vous a donné envie d'aller jouer à Hellblade. Il est disponible sur le Xbox Live, il est disponible sur Steam, voilà, sur plein de plateformes différentes. Ça fait 10 ans qu'il est là. Et en plus tu l'as tout à l'heure effleuré un petit peu. Il y a un 2 pour celle qui aurait envie d'aller plus loin. Mais maintenant, si vous avez joué à Hellblade et que vous avez aimé l'atmosphère, vous avez aimé son propos, on a envie de vous proposer des choses. Vous, vers quoi vous redirigeriez les joueurs et les joueuses? Il vous reste exactement 3 minutes, montre en main.
Ok, je vais vite me lancer alors. Donc moi, je vais vous proposer de jouer à Indica. Donc Indica, qui est un jeu indé narratif d'un studio russe qui s'appelle Oddmeter. Studio russe dont les développeurs ont bougé au Kazakhstan, blablabla. Bref, vous connaissez un petit peu le contexte. En gros, le jeu, c'est quoi? C'est tu incarnes Indica, donc qui est une jeune nonne dans une Russie fictive, alternative du fin 19e. Et cette jeune nonne, elle entend la voix du diable et elle doute de sa foi et elle traverse un monde qui est aussi un voyage initiatique dans une certaine mesure où elle essaye en fait de, comment je vais dire, de fuir tout ce dont on l'accuse aussi, parce que pareil, dans ce cercle de nonnes dans lequel elle est accusée de plein de choses, de plein de mots, etc., parce que elle entend le diable. Et donc voilà, et le jeu est assez particulier parce que, bon, je dis pas que tous les propos sont... Ouais, peu importe, vous ferez votre avis vous-même, mais en tout cas en termes de gameplay, ben, on est sur quelque chose d'assez similaire à Hellblade en termes de profondeur de gameplay, mis à part le fait que t'as quand même des petites astuces assez sympathiques qui sont par exemple le fait que tu as des petites parties en pixel art qui symbolisent certaines parties, ou que tu aies des jauges d'XP de foi, mais que finalement ces jauges d'XP de foi, ben, ça sert à rien. Et c'est ça aussi le propos du jeu, donc c'est okay. À quel point ta foi sert à quelque chose. Voilà, donc Indica.
Ok, Dova, toi, quelle serait ta recommandation?
À l'épisode précédent, j'avais parlé d'Hellblaze, donc je vais être obligée de parler de Gris.
Ah oui, bah oui.
Parce que quand j'ai terminé Hellblade, je me suis dit, mais jamais un jeu me refera un truc pareil. Et puis un jour, j'ai joué à Gris. Et voilà. Et en fait, pour moi, les deux sont similaires dans le sens où c'est toujours le voyage initiatique, c'est toujours le voyage à l'intérieur de toi, celui qui te fait remonter des émotions, des choses, soit positives, soit négatives, mais à propos de toi et toujours de toi. Mmh. Et en fait, pour moi, les deux sont indissociables. En fait, si t'as aimé l'un, il faut faire l'autre. Si vraiment c'est le voyage qui est intéressant, si t'as fait l'un, il faut faire l'autre.
Et voilà. Je pense que les personnes qui sont autour de cette table approuvent. En tout cas, on l'a fait tous les deux et je pense qu'effectivement, ça va dans... On aurait pu le conseiller aussi, quoi.
Avec des magnifiques illustrations de Conrad Rosset que j'adore.
Tout ouais. À fait.
Trop bien. Bah, écoutez, je vais terminer par une reco aussi. C'est d'ailleurs peut-être un jeu qui aura aussi son épisode à venir. Qui sait? Ça s'appelle Inscription. Je l'ai choisi. Pourquoi? Parce qu'il y a un tout petit détail dont on n'a pas parlé qui est en fait le fait qu'à certains moments, le Hellblade... brise le quatrième mur parce qu'il s'adresse à vous. Bon, ça fait partie aussi du fait que c'est un jeu qui a un message, donc il va s'adresser directement au joueur, à la joueuse. Bien, dans Inscription, il y a ce côté-là. En fait, c'est de préambule, on pense que c'est un jeu de cartes. Puis en fait, il y a un moment, il y a une carte qui est une belette qui va commencer à nous parler et elle va dire « Mais tu vas me jouer, t'es sûr ?» Et puis t'es là « Mais attends, est-ce que je vais vraiment la jouer ou pas ?» Et puis en fait, du coup, le jeu va s'adresser à nous et à un moment, on va quitter tout à fait l'environnement dans lequel on est et on va avoir une espèce... Alors, c'est pas un vrai documentaire parce que c'est mis en scène, mais il y a un aspect documentaire. En fait, on quitte le jeu, on quitte les pixels, on arrive dans des vidéos, il se passe quelque chose. En fait, on rencontre quelqu'un qu'on pense peut-être être le créateur du jeu auquel on est en train de jouer. Et pour moi, ça a vraiment... J'ai eu des sensations, en tout cas en termes de renversement de situation et de manière dont ça rentre un peu dans mon crâne, assez proche de Hellblade, parce que ben voilà, c'est aussi un jeu où le gameplay est secondaire, c'est-à-dire que tu vas jouer aux cartes, à partir du moment où tu comprends que tu joues aux cartes, tu comprends comment ça fonctionne. Par contre, tout ce qu'il y a à raconter autour est complètement fou. La fin est aussi épique. T'as de la dégradation de pixels dans tous les coins, t'as l'impression que t'es sous stupéfiant. Bref, voilà, je vous propose d'aller jouer à Inscription. Naïm vous a proposé d'aller jouer à Indica et Dova vous a proposé d'aller jouer à Gris. On va conclure cette émission là-dessus. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup d'être fidèle à Radio Campus et à notre émission. Merci beaucoup Naïm et Dova d'avoir prêté votre merci voix à cet plaisir. Épisode. Dova, on se revoit a priori le mois prochain. Oui. Naïm, tu es toujours le bienvenu. Je te tiendrai au courant si merci. Tu veux bien des prochains épisodes.
Avec grand plaisir.
Et nous, on vous souhaite une très belle fin de journée. C'était Dans le Rétro. Vous êtes toujours sur Radio Campus 92.1 et on se dit bien au mois prochain. Au revoir.
Au revoir.
Salut.
Salut. Thank you.